Rio 2016, les Jeux continuent. Voici Alexandre Coupal.
La plus cordiale des bienvenues à vous tous et à vous toutes à cette édition de Rio 2016. Les Jeux continuent. Déjà, dans 15 minutes, on sera à mi-chemin de notre série. Il y a 13 épisodes. On est au 7e. Ça veut dire que les Jeux sont bel et bien entamés. Cela dit, on n'est pas tout à fait à mi-chemin de ces Paralympiades, mais n'empêche, ça se termine dimanche. Ça va très, très vite. Et encore une fois, hier, la journée a été riche en rebondissements. On s'offrira tous les résultats des 24 dernières heures avec Philippe Asselin dans quelques secondes. Le temps de vous expliquer un peu ce qui est au programme aujourd'hui. Il sera question d'escrime en fauteuil roulant. C'était l'entrée en scène de l'une des vedettes de l'équipe canadienne, quelqu'un qui est bien connu aussi ici à la station, Pierre Mainville, qui a collaboré régulièrement sur nos ondes et qui aujourd'hui donc entamait son périple. J'en dis pas plus. Il y a des punchs à ne pas dévoiler. On parlera non pas avec lui, ni de lui, par contre, mais de Mathieu Hébert, qui est l'autre. Ils sont deux athlètes en escrime en fauteuil roulant pour la délégation canadienne. Et on aura le plaisir de s'entretenir avec l'entraîneur et athlète également, Sylvie Morel. Il y a quelques technicalités intéressantes pour cette discipline, qui par ailleurs est calquée là, sur l'escrime que l'on retrouve aux Jeux olympiques. Mais encore là, ce sont des sports qu'on connaît pas beaucoup de manière générale. Donc, on va s'offrir un petit tour d'horizon et également quelques notes plus spécifiques sur Mathieu Hébert qui prendra part aux Jeux un peu plus tard dans les prochains jours. Et comme d'habitude, on fera notre saut quotidien à Rio, cette fois avec Émilie Bouchard-Labonté de l'agence Sportcom. Elle qui a eu le plaisir d'assister aux courses d'Aurélie Rivard, de Benoît Huot également. Donc, elle a passé, de ce que je comprends, là, elle passe du temps à la piscine, non pas dedans, mais à côté, et également sur les courts, puisqu'elle nous parlera des équipes de basket masculines et féminines. On a un petit peu des destins opposés de part et d'autre là, depuis le début de ces Jeux. Alors voilà. Ah oui, j'ai préparé un petit quelque chose aussi un peu plus tard parce qu'il y a 6 nouveaux pays qui participent pour la première fois. Ce ne sont pas des nouveaux pays, quoique dans certains cas, mais c'est des nouveaux dans le registre paralympique. Alors 6 pays qui participent pour la première fois aux Jeux. Je vous en ferai l'explication et les détails un peu plus tard. Mais pour tout de suite, les résultats des 24 dernières heures. Avec M. Philippe Asselin. Philippe, bonjour.
Bonjour, Alexandre.
Alors, une autre journée fort occupée.
Oui, effectivement, on commençait ça tout de suite en natation avec la médaille qu'a eu droit hier. Aurélie Rivard, deuxième médaille de ses Paralympiades. Cette fois-ci, c'est en 200 mètres dans sa catégorie, donc S10, l'athlète de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, deuxième médaille après sa médaille d'or en natation. Sinon, aussi hier, on a Katharina Roxon qui a terminé septième dans sa finale de CB9. Benoît Huot a terminé quatrième. Émilie nous en parlera un petit peu plus tard dans l'émission.
Au pied du podium.
Au pied du podium, derrière 3 Ukrainiens qui ont réussi donc un triplé pour l'Ukraine. Sinon, Zach McAllister a terminé 7e dans sa finale. Morgan Bird, en 100 mètres libre, S8, a terminé elle aussi 7e. Maintenant, en athlétisme, Jason Don Curley d'Ottawa et son guide Josh Karrajan ont terminé 5e en ronde préliminaire. La finale aura lieu demain. Sinon, en 100 mètres T34, Austin Smick a terminé 5e de sa ronde préliminaire. La finale aura lieu ce soir. Et Guillaume Wallet a terminé, lui, 9e au 1500 mètres T13. Finale aussi ce soir. Sport équestre, c'est commencé.
Oh, mais tout ce monde-là est qualifié pour les finales.
Ces 3 personnes-là, oui, sont qualifiées donc pour les finales qui auront lieu ce soir ou mardi dans certains cas. En sport équestre, maintenant, il faut dire que Roberta Seinfeld a terminé 10e. Ashley Cowan-Luck, elle a terminé 7e au classement général par équipe. Le Canada est présentement quatrième après deux de ses quatre cavalières. Et on aura droit aujourd'hui, un petit peu plus tard, en fait, même que c'est peut-être en cours présentement, un autre de ses cavaliers qui sera en action. Donc, c'est cumulatif par équipe lors de cette discipline. En goalball maintenant, toujours en ronde préliminaire, le Canada a défait l'Ukraine 3-2 pour niveler sa fiche à une victoire, une défaite. Il faut noter la performance de Emmy Burke qui a marqué deux fois lors de cette rencontre. Sinon, on s'en va du côté du triathlon maintenant puisque dans la finale féminine PT4, Chantal Givens, athlète originaire de Winnipeg, a terminé 8e et à la finale PT5, Christine Roberts d'Ottawa et sa guide Sasha Bolton ont terminé 10e. En basketball en fauteuil roulant, chez les hommes, le Canada a maintenant une fiche de 0-4 suite à une défaite de 76-45 contre le Japon en soirée hier soir. David Eng de Montréal a marqué 18 points dans la défaite. Maintenant, on se retourne vers aujourd'hui parce qu'on avait des compétitions ce matin en tir à l'arc. Ce matin, quand même assez tôt, Karen Van Ness et Kevin Evans-Rond en 16 ont battu l'équipe de l'Espagne 144-147, donc avanceront dans la compétition. En athlétisme maintenant, Pam Lejean de la Nouvelle-Écosse en poids féminin donc se classer pour la finale. En fait, a terminé 7e en finale, En goalball, l'équipe masculine a perdu face à l'Algérie, donc on se retrouve avec une fiche de 1 victoire, 2 défaites, a perdu 17-13. Et sinon, en natation, ce matin, au 100 mètres papillon masculin S10, Nathan Steen et Alec Elliott ont terminé respectivement 5e et 6e dans les rondes préliminaires. Ils iront en finale ce soir. Du côté de Samantha Ryans en S10 100 mètres, elle s'est qualifiée pour la finale aussi. En basketball, en fauteuil roulant, les filles ont gagné 82-49 face au Brésil. 2 victoires, 1 défaite.
Ouais. Mais je disais, destin inverse, là, ça va très bien pour les femmes. C'est plus difficile pour les garçons.
Et je vais terminer ce bulletin-là avec l'escrime en fauteuil roulant. T'en as parlé en introduction. Pierre Mainville qui a terminé son parcours encore de finale. Une défaite face à un Grec. Une défaite de 15-6. Donc, ce sera terminé pour lui du côté des Paralympiques.
Un petit coup d'œil au tableau des médailles ou on fait ça plus tard?
Oui, au tableau des médailles, si on regarde, le Canada se classe mais présentement 12e avec 3 médailles d'or, 7 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Ça, c'est au classement cumulatif de toutes les médailles.
D'accord.
Le top 5 est composé de la Chine qui est loin devant, on en a parlé hier et avant-hier, 98 médailles déjà d'accumulées pour la Chine, suivie de la Grande-Bretagne, de l'Ukraine, des États-Unis et de l'Australie dans le top 5 des médailles.
Et c'est presque impossible pour la Grande-Bretagne ou quiconque qui est derrière la Chine de rattraper.
La Grande-Bretagne est à 40 médailles d'écart. Ils ont 58 médailles. Donc oui, c'est pratiquement impossible.
C'est plus que le double de son plus proche poursuivant pour la Chine. Ben, merci Philippe. On se retrouve en fin d'émission pour la rubrique à surveiller. Alors, sur les 176 pays qui participent aux Jeux paralympiques cette année, et d'ailleurs, c'est la plus grande participation, la plus grande délégation de pays dans l'histoire des Jeux, bien sûr, puisqu'ils s'en ajoutent à chaque Paralympiade. Il y en avait 165 à Londres, donc il y a 4 ans. Et petite parenthèse, ça me rappelle que Chantal Petitclerc nous disait lors de notre première émission, pour expliquer pourquoi le Canada glissait dans les palmarès, l'une des pistes, c'était justement qu'il y a de plus en plus de pays, non seulement qui participent, mais qui sont compétitifs également. Et ça, cette année, ça se traduit par l'arrivée de 6 nouvelles nations qui en sont donc à leur première participation aux Jeux paralympiques. Là-dessus, il y a 5 pays africains, un pays des Caraïbes, qui sont faciles à deviner. D'ailleurs, le premier pays en ordre alphabétique là, à rejoindre ce groupe de 6, c'est Aruba, donc l'île caribéenne, qui est représentée dans un sport par un athlète qui participait à 2 épreuves. Je dis qu'il participait, mais on est entre les deux. Il s'appelle Jesus David de Marquena Acevedo et c'est un athlète en athlétisme, en natation. Aussitôt qu'il y a plus qu'une épreuve, j'ai tendance à me mêler. En natation, donc, il a fait le 50 mètres style libre. Il n'a pas terminé la finale. et il n'a pas atteint la finale, pardon, et vendredi, il sera du 100 mètres style libre. Donc, un athlète de Aruba. Même chose pour le Congo. À vrai dire, c'est la même chose pour tout le monde. Chacun de ces pays-là est représenté par un athlète pour cette grande première. Le Congolais Bardi Chris Bouesseau, lui aussi en athlétisme, n'a pas fait ses... c'est-à-dire, a fait ses débuts au lancer du javelot, a terminé 15e, donc a fait la finale. Et il sera de retour à la piste d'athlétisme vendredi pour le lancer du disque. Il y a un athlète du Malawi, du Malawi, Taonere Banda. Elle fait du 1500 mètres, donc toujours en athlétisme. Elle n'a pas fait la finale, l'épreuve est déjà terminée. Mais le Malawi qui est représenté dans un sport par une athlète. Somalie, même chose, on est toujours en Afrique. Un athlète, un sport. Farhan Adawe, lui aussi en athlétisme au 100 mètres. Il n'a pas fait la finale, c'est déjà terminé. Au Togo, on a un athlète qui participe dans un sport également. L'haltérophilie, c'est la meilleure performance là, de ces nouveaux venus. Une 7e place en dynamophilie chez les moins de 49 kilos. Donc, pour Aliou Bawa, c'est déjà réglé. Et ça, c'est un pays qui n'est pas très connu. J'ai dû faire quelques recherches. Sao Tomé et Principe, c'est un petit archipel africain représenté par un athlète du nom de Alex Agnos qui n'a pas fait la finale lors du 100 mètres en athlétisme et qui sera des épreuves du 400 mètres vendredi et samedi. Alors bravo à ses premières qualifications, à ses premiers pas, à ses débuts pour ces pays, principalement africains, qui sont donc de ces Jeux et qui rejoignent donc la grande famille paralympique. Nous allons maintenant parler d'escrime en fauteuil roulant avec l'entraîneur et athlète Sylvie Morel. Madame Morel, bonjour.
Oui, bonjour.
On va, on a parlé de Pierre Mainville un peu plus tôt et avec vous, on va parler de l'autre représentant du Canada dans cette discipline. Mais juste avant, allons-y de quelques spécifications. On peut peut-être commencer par dire que l'escrime, c'est malheureusement pas un sport qui est très couvert par les médias d'abord et forcément pas très connu du grand public. Il y a trois catégories, l'épée, le fleuret et le sabre. Pouvez-vous nous expliquer vite, là, quelles sont les nuances dans ces trois catégories?
Eh bien, je pourrais regrouper ça en deux groupes. Le fleuret et le sabre, ce sont des armes de convention. Grosso modo, ce que ça veut dire, c'est le premier qui amorce une attaque a la priorité et l'opponent ou l'adversaire doit reprendre la priorité pour que son coup soit compté. C'est-à-dire que si moi je t'attaque, tu pars mon coup, on se touche en même temps, tu as le point parce que tu as enlevé ma priorité en parant le coup.
D'accord.
L'épée, lui, il n'y a pas de convention, il n'y a rien. Le premier qui touche, il a le point. Les deux se touchent, chacun un point.
D'accord. Et c'est une très bonne nuance. Puis, corrige-moi si je me trompe, mais l'épée, c'est l'arme la plus rigide. Les autres sont davantage souples, non?
Oui, effectivement.
Donc...
L'épée est rigide, à comparer évidemment au fleuret et au sabre, mais par contre, les trois armes, c'est des armes d'estoc, c'est-à-dire qu'on peut toucher avec la pointe pour que le point compte.
OK. Donc, c'est toujours de cette façon-là qu'on marque un point.
À part le sabre. Le sabre, lui, il a la fonction qu'on peut toucher avec le tranchant.
Ah!
Alors que l'épée et le fleuret, eux autres, c'est vraiment des armes d'estoc, c'est-à-dire qu'on touche avec la pointe. Seulement
avec la pointe.
Oui.
Pour ce qui est maintenant de l'escrime en fauteuil roulant, il y a deux catégories. Et c'est...
En fait, je ne veux pas te contredire, mais il y en a trois.
Ah bon?
Il y a A, B et C.
Ah, d'accord.
Par contre, aux Olympiques, le C, si tu veux tirer, tu dois tirer avec les B.
Okay.
C'est totalement ridicule parce que l'avantage est énorme au niveau des B.
Mais c'est quoi la différence entre B et C?
Le C doit être absolument tétraplégique.
OK.
Tandis que le A, lui, doit avoir un équilibre. Il n'y a pas d'équilibre du tronc. C'est-à-dire, non. Le A, il y a un équilibre du tronc.
Ouais.
Le B, il n'y a pas d'équilibre. Et le C, c'est un tétraplégique.
OK. D'où l'avantage pour... ou le désavantage pour les C là, qui doivent tirer dans la catégorie B, c'est ça?
Tout à fait. Okay. Par contre, il y a quand même des bons tireurs C. Moi, j'ai connu un escrimeur des États-Unis qui a fait 3 Paralympiques en tant que C, puis il tirait avec les B, puis il m'a dit quelque chose. Il faisait mal.
Comment se porte le sport chez nous? On a 2 représentants québécois dans l'équipe canadienne. Est-ce que c'est un indicatif?
Oui, tout à fait, oui, parce que d'ailleurs, ça se développe dans le pays, ce qui est très, très, très agréable pour tout le monde. Mm-hmm. Et moi, je suis membre du représentant de IWAS pour le développement de l'escrime au Canada. Donc, tu t'adresses à la bonne personne. Il y a des groupes qui se développent à Saskatoon, en British Columbia, puis à Toronto. On est tous très heureux de ça. Mais ils commencent à le faire, fait que nous, parce qu'au Québec, semble-t-il, on aime plus ça que les autres provinces, je sais pas. On a plus de tireurs en fauteuil roulant au Québec, compétitifs que dans le pays, mais c'est une question de temps avant que ça se développe.
Et ça se traduit pour l'instant de la manière dont je le disais, c'est-à-dire que les 2 représentants canadiens sont issus du Québec.
Oui.
On connaît beaucoup Pierre Mainville. Oui. Ben, on connaît beaucoup. On le connaît davantage.
Oui.
C'est un gars qui est est un chouchou des médias, puis il le leur rend bien. D'ailleurs, ça va de pair.
Le terme est bon.
Oui, absolument. Et on connaît moins, par contre, Mathieu Hébert, qui est l'autre représentant.
Oui, Mathieu, c'est un mec extrêmement introverti. C'est un homme galant, il est courtois, c'est incroyable. Mais c'est même surprenant que cet homme-là fait de l'escrime, parce que c'est quand même un sport de combat. Puis
ouais.
Mathieu, tu y parles, c'est un gars tranquille, posé, il s'énerve pas pour rien, mais aussitôt que tu lui mets un masque et une arme dans la main, c'est une brute, c'est un animal, c'est féroce, c'est agressif, il veut gagner, là, il a la fureur de vaincre, c'est agréable finalement de tirer avec un mec comme ça.
Jusqu'à quel point c'est une composante importante de la discipline, ça, ce à quoi vous faites référence là, comme étant, je sais pas, l'attitude ou la propension psychologique?
Oh, ça, je peux pas vraiment définir ça clairement, parce que chaque individu, aussitôt qu'il met un masque, c'est lui qui décide comment il veut tirer, puis le caractère qu'il a va apparaître, il peut pas le cacher, parce que c'est quand même un sport de combat. Mais je dois dire que c'est un sport de galanterie et de finesse, et il y a jamais des choses horribles à voir ou quoi. Non, c'est vraiment un sport bien contrôlé, bien perçu par les athlètes. Il y a un règlement clair, net et précis. C'est arbitré. Non, vraiment, c'est même beau à voir. Comme sport de combat, c'est beau à voir.
Il nous reste à peine une trentaine de secondes. Oui. Dites-moi, qu'est-ce qu'on peut espérer pour Mathieu? Oh, je pensais pas que la question était si... Je pensais pas vous coincer, là.
Oui et non. C'est que, tu sais, nous, les athlètes, il y a des journées, on peut battre tout le monde.
Ouais.
Si tu dors bien, t'as bien mangé, t'as focusé, t'as eu un bon entraînement, tout va bien, tu peux être l'homme à battre. Si tu dors pas bien, t'as mal au ventre, t'es énervé, tu peux finir le dernier.
Mm-hmm.
Puis Mathieu, c'est un mec qui peut être le champion olympique comme il veut finir le dernier. Il est tellement difficile. Puis c'est pour ça que les adversaires aiment pas ça se battre avec lui, parce qu'on peut pas le lire.
Okay.
Donc, pour lui, honnêtement, tout est permis.
Alors, Mathieu Hébert a surveillé, bien évidemment.
Oui, à l'épée catégorie A.
Épée catégorie A, vous n'auriez pas le calendrier sous les yeux par hasard?
C'est demain à partir de 8 heures.
Demain, 8 heures.
Oui.
Excellent. Ben, écoutez, on va bien sûr lui souhaiter une bonne nuit, mais c'est tellement vrai ce que vous dites, Sylvie, et c'est vrai pour les escrimeurs, mais c'est vrai pour tout le monde.
Ah oui, tout à fait.
Ces sports-là qui se jouent en une journée, même il y a d'autres sports qui se jouent en un essai, une tentative, c'est vraiment à ce moment-là que ça se passe. Un grand merci, Sylvie Morel, d'avoir pris...
Ça m'a fait plaisir, puis j'espère que tout le monde va regarder ça.
Ben, l'invitation est certainement lancée.
Excellent.
Une bonne fin de journée, au plaisir.
Vous de même. Merci.
Thank you.
Et nous allons faire notre tour quotidien à Rio, cette fois rejoindre la journaliste de Sportcom, Émilie Bouchard-Labonté. Allô, Émilie.
Allô.
Comment ça va?
Ça va super bien. Encore un beau soleil à Rio aujourd'hui. On est tout bien.
Ben, tu nous envoies... L'automne est arrivé à Montréal. Tu nous envoies... on est bien quand même, là, mais tu nous envoies ravis de savoir qu'il fait toujours beau et chaud à Rio. Par contre, tu passes beaucoup de temps proche de l'eau, mais pas à la plage.
Non, j'avouerais que ça me plairait bien un petit avant-midi de plage, là, mais je suis bien contente d'être sur le bord des piscines présentement parce qu'il se passe beaucoup de choses pour nos nageurs, nos parents nageurs québécois. Autre médaille de, ben, en fait, une médaille d'argent là, hier pour Aurélie.
Oui.
Puis une quatrième place pour Benoît Huot, mais on va, comme on va le dire, premier au monde après les Ukrainiens aux 200 mètres 4 nage.
Après, ouais, d'ailleurs, après la course, il semblait tout à fait ravi, là, pas du tout embêté de terminer au pied du podium comme ça.
Oui, c'est sûr que je pense qu'au fin fond de vie, il aurait aimé ça avoir une autre médaille, s'arrêter sa 20e médaille en Jeux paralympiques. Il aurait égalisé, je pense, même un record en nombre de médailles gagnées par un athlète canadien en paranatation à des Jeux. Mm-hmm. Mais bon, il a été battu plus fort que lui. Écoutez, dans les dernières années, sa catégorie S10 est devenue de plus en plus compétitive et quelques Ukrainiens qui sont arrivés dans le portrait, notamment depuis l'année dernière, depuis les derniers championnats du monde. Donc, c'était un triplé ukrainien, Denis Dubrov, qui a remporté la médaille d'or, fracassé le record du monde, qui détenait lui déjà, puis que Benoît avait déjà détenu son meilleur temps, en fait, qui était aux Jeux de Londres, en remportant la médaille d'or à Londres, il avait fracassé le record du monde. Malheureusement, il a passé plus une quatrième, mais quand même satisfait de l'effort. Il aurait aimé ça nager un petit peu plus vite encore. Mais bon, après un meilleur temps la veille, il est quand même satisfait de ces Jeux.
Non, mais ces Jeux ne sont pas terminés.
Non, il reste 400 mètres libres. Ouais. Encore là, les trois Ukrainiens vont être de la partie.
Okay.
Alors, on s'attend encore à un autre triplé ou en tout cas dans ces eaux-là. Sa meilleure chance, ça semblait être le 200 mètres 4 nages, mais qui sait, là, il y a un peu moins de pression. Il peut arriver avec une bonne course, faire un meilleur temps comme il a fait au 100 mètres d'eau.
Et ce 400 mètres, ce sera sa dernière course?
Oui, ça sera sa dernière course des Jeux paralympiques. C'est probablement pas sa dernière course en carrière. Par exemple, là, Benoît risque de nager encore quelques courses, quelques compétitions, qui sait. Je pense qu'il va y aller mois après mois par la suite.
D'accord. Ça va rester quand même un événement en soi, surtout si ça devait être ses derniers Jeux paralympiques. Lui qui a longtemps incarné non seulement la paranatation, mais je dirais les paralympiques en général, là.
Oui, puis je veux dire, il a été inspirant pour plusieurs athlètes. Aurélie Rivard, Benoît, c'était son mentor, c'était son idole. Et maintenant, vous voyez, c'est elle maintenant qui est dans les feux de la rampe puis qui pousse la paranatation canadienne. Seulement 20 ans, je le disais, lorsqu'on s'est parlé la dernière fois, rendu déjà à 2 médailles. C'est sûr qu'hier, bon, médaille d'argent était très satisfaite pour comme ça. Elle disait, bon, c'est ma médaille d'or. Sophie Pasco, la Néo-Zélandaise, qui était détentrice du record du monde, a battu son record du monde hier, était dans une classe à part, bien en avant, devant tout le monde. Alors, pour Aurélie, record canadien,
ouais.
Un record qui lui appartenait pas, qui appartenait à Summer Martineau avant. Donc, très satisfaite de cette course-là aussi.
Et elle était de retour dans la piscine aujourd'hui, non?
Non, aujourd'hui, elle était censée, mais elle a décidé de prendre une pause. Elle sera de retour demain au sang libre.
OK. Et elle, il reste plus qu'une course, là, il me semble, à son horaire. Là.
Oui, 100 mètres libres, mais aussi 400 mètres libres qui va être à son programme.
D'accord. Donc voilà pour les affaires de natation, appelons-les comme ça. Sinon, tu passes beaucoup de temps au basket?
Oui, parce que bon, les deux équipes canadiennes ont deux parcours pas mal différents.
Ouais.
Les filles, ça va pas mal bien. Les gars, on en avait parlé, un tournoi un petit peu plus difficile. Les filles ont subi leur première défaite du tournoi hier contre les Allemandes. Je rappelle, l'équipe féminine de basketball en fauteuil roulant canadienne est championne du monde et elles ont été battues par les Allemandes qui sont vice-championnes. Alors, au fin fond d'elles, étaient très déçues, mais je pense que c'est un petit peu une déception d'orgueil, je vous dirais, de ne pas avoir complété le tour préliminaire avec seulement des victoires. Elles sont bien reprises en battant les Brésiliennes ce matin. C'était pas un match facile parce que, je vous dis, je suis allée faire un petit saut là, rapidement pour le premier quart. Et généralement, l'équipe canadienne sont bien supportées dans les estrades. les Brésiliens, ou en tout cas les spectateurs, on compte pas mal pour le Canada, mais pas cette fois-ci. Chaque fois que les filles marquaient un point, c'était silence total dans l'aréna, mais dès que le Brésil faisait une petite chose, là, on entendait ça qui dit ça. Alors, ça peut être un match facile, mais elles s'en sortiraient avec une victoire facile. Ça les a, de cette façon-là, elles passent au tour suivant. Elles vont affronter les Néerlandaises au premier tour éliminatoire. Les Néerlandaises, ben là, ça va être un match difficile, troisième au monde.
Oui, mais j'allais dire, elles vont peut-être retrouver la faveur du public à ce moment-là.
À ce moment-là, sûrement.
Donc, déjà la phase éliminatoire pour l'équipe féminine de basket.
Oui, ça commence oui. Demain.
D'accord, c'est noté. Sinon, sans vouloir être indiscret, qu'est-ce que tu fais ce soir?
Ce soir, ben, je retourne à la natation. On a une nageuse, Sarah Mayhane, qui va être en finale du 50 mètres à pied. C'est quand même sa deuxième finale des Jeux, sa troisième ou quatrième course. Donc, ça va quand même bien pour elle, des meilleurs temps à la clé. Aussi, j'allais faire un petit tour du côté du goalball. L'équipe canadienne féminine joue à cet après-midi.
Super. Ben, amuse-toi bien, Émilie. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Puis on se retrouve dans pas très longtemps.
À bientôt.
Et maintenant, Philippe Asselin, qu'est-ce qu'on surveille, nous, pour non seulement la soirée, mais jusqu'à demain?
Eh bien, pour la soirée, Émilie vient de nous le dire, un peu de natation, ça m'a mis in. Sinon, demain, j'ai trouvé l'horaire de Mathieu Hébert, qui affrontera quatre adversaires demain matin. Un Italien, un Irakien, un Français et un Chinois, donc pour son côté préliminaire. Ouais.
On disait, c'est important d'être en forme.
Quatre matchs.
Parce que c'est une grosse journée.
Ouais. Et même un Brésilien aussi, regarde, je viens de trouver. Cinq matchs demain. Canada affrontera aussi en La Boccia, le Portugal, et du basketball aussi. Et on aura une possibilité de médaille demain, assez tôt aussi, en tennis de table. Stéphanie Chan qui affrontera la Coréenne Seong-ok Kim.
C'est la petite finale?
C'est la petite finale, oui, pour la médaille de bronze.
Pour la médaille de bronze. Philippe Asselin, merci beaucoup. De l'agence Sportcom, on s'entretint il y a quelques secondes à peine avec Émilie Bouchard, la bonté. Un grand merci à elle également. Sur le site, et merci aussi à Sylvie Morel, qui était notre invitée un peu plus tôt, entraîneur et athlète en escrime. J'allais dire, sur le site de Canal M, vous allez trouver tous les détails concernant nos invités. C'est Jean-Sébastien Laliberté qui était de retour à la console aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci tout spécial pour Christiane Campagna qui s'occupe des réseaux sociaux et au Comité paralympique canadien qui nous accompagne dans la production de cette émission. Je m'appelle Alexandre Coupal. Ça y est, on a franchi le cap de la mi-chemin dans cette série d'émissions. On se retrouve demain, 15h.